Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 1er août. Le Rhône reste placé en vigilance orange canicule. On attend encore 34 degrés cet après-midi à Lyon. La préfecture maintient également son arrêté, instaurant un ensemble de mesures d'urgence pour limiter la pollution et réduire ses effets. Attention, la baignade dans la zone aménagée du lac des Sapins est déconseillée pour une durée indéterminée. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Bruno Bernard, le président de la métropole, se dit lui confiant quant à la perspective de lieux de baignade naturelle sur le territoire de la métropole dans les prochaines années. 150 personnes se sont rassemblées hier devant la métropole à l'appel des travailleurs sociaux et des professionnels de santé. Nous parlons également de la facture pour le tunnel de base Lyon-Turin qui s'alourdit de 30%. Et puis nous parlerons également de patrimoine industriel et nous reviendrons sur l'histoire de Marius Patay qui installe son usine dans le 8e arrondissement en 1917. Des usines dont il ne reste plus rien aujourd'hui, si ce n'est un vaste programme immobilier.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Rhône est placé en vigilance orange canicule depuis 3 jours. Hier soir, un orage de grêle s'est abattu sur le village de Vaux-Renard vers 19h. Des grêlons plus gros que des billes se sont abattus pendant 30 minutes. Les viticulteurs craignent de gros dégâts sur les vignes du secteur. Des habitants ont pu également constater des dégâts importants sur les véhicules et sur certaines toitures. Les pompiers du département sont aussi intervenus à Belleville, Villiers-Morgon ou encore Corcelles pour cause d'orage et de coups de vent. En revanche, Lyon a été plutôt épargné. La préfecture du Rhône a pris un arrêté instaurant un ensemble de mesures d'urgence pour limiter la pollution et réduire ses effets. Les mesures restrictives sont ainsi maintenues jusqu'à une baisse significative du thermomètre et a priori ce ne sera pas pour aujourd'hui. On attend encore 34 degrés cet après-midi. La vitesse est temporairement limitée à 70 km/h sur tous les axes routiers du département, habituellement à 80 ou 90. De plus, seuls les véhicules affichant un certificat qualité de l'air, vignette critère de classe 0 émission moteur ou de classe une ou deux sont autorisés à circuler au sein de la ZFE de la métropole, à l'exception du périphérique et des voies M6 et M7 où tous les véhicules peuvent circuler. La baignade dans la zone aménagée du lac des Sapins est déconseillée pour une durée indéterminée. Avec les fortes chaleurs, la présence de toxines potentiellement dangereuses dans les eaux du lac ne permet plus d'assurer la sécurité des usagers. Les activités nautiques, elles, sont maintenues. L'Agence régionale de santé réalise des relevés hebdomadaires à différents points du lac. Seule une baisse des températures conjuguée à une hausse des précipitations pourrait faire baisser les taux de cyanobactéries. À Condrieu, la baignade a aussi été suspendue en raison de la dégradation de la qualité de l'eau. Bruno Bernard, le président de la métropole, se dit confiant quant à la perspective de lieux de baignade naturels sur le territoire de la métropole de Lyon dans les prochaines années. La collectivité accompagnera les maires qui souhaitent mettre en place des spots de baignade avec des aides à l'investissement. Des échanges sont en cours pour étudier de manière concrète la faisabilité opérationnelle des sites potentiels qui avaient été identifiés par une étude commandée par la métropole. La ville de Lyon avait prévu d'organiser une journée de baignade dans le cadre du festival entre Rhône et Saône. L'opération, on s'en souvient, avait dû être annulée en raison d'orages survenu les jours précédant l'événement. 5000 m² de végétation en feu hier sur la commune de Beauvallon. L'incendie s'est déclaré vers 18h30 le long de la départementale 488E, la route de Gaudivert, à la hauteur de la commune de Saint-Andéol-le-Château. Les flammes se sont ensuite propagées sur un secteur vallonné en direction du quartier du Plantet. Un feu de type arbustif, 4 engins feu de forêt, 2 camions citernes et un fourgon de lutte contre les incendies ont été déployés pour circonscrire le feu. 30 sapeurs-pompiers venus de 7 centres de secours ont lutté contre les flammes pour éviter ainsi une propagation importante au milieu forestier. L'individu soupçonné d'avoir incendié les ateliers des concessions BMW et Mini à Vez dimanche a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. Ce vénitien, connu de la justice, a été présenté mardi devant le juge d'instruction et mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux et tentative de vol par effraction. L'individu était porteur d'un bracelet électronique. Il était donc connu des services de justice. Un violent incendie avait détruit 600 m² d'atelier. Le suspect s'apprêtait à voler, semble-t-il, une voiture quand il a été surpris par la police. Il aurait alors mis le feu pour faire diversion. 150 personnes se sont rassemblées devant la métropole de Lyon hier soir à l'appel des travailleurs sociaux et des professionnels de santé. La métropole a décidé de suspendre temporairement la mise à l'abri des mères isolées et de leurs bébés. La collectivité met en avant des soucis budgétaires et pointe l'État qui, selon elle, n'en fait pas assez, mais aussi les départements voisins qui ne répondraient pas à leurs obligations. C'est de la compétence de la métropole de prendre en charge les bébés, les enfants, les mères isolées, martèlent les travailleurs sociaux. Une délégation a été reçue hier à la métropole. Les collectifs demandent à l'État et aux autorités locales de prendre leurs responsabilités et de se mettre rapidement autour de la table pour trouver des solutions d'urgence. La facture pour le tunnel de base Lyon-Turin s'alourdit. Le chantier coûtera finalement 11,1 milliards d'euros, soit 30% de plus que prévu. L'entreprise TELT a publié le coût prévisionnel actualisé du chantier, 2,5 milliards d'euros de plus que prévu par rapport aux chiffres avancés en 2015. En cause, la crise Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts des matières premières. Initialement prévu en 2032, le chantier sera finalement livré avec un an de retard.
Lyon demain ? Histoire lyonnaise.
Il existe à Lyon des entreprises qui ont marqué l'histoire d'un quartier dont aujourd'hui il ne reste pratiquement rien. Qui se souvient qu'on fabriquait des démarreurs chez Paris-Rhône devenu Valeo dans le 8e arrondissement, des bateaux-mouches dans le quartier de la Vitriolerie ou du tulle et de la dentelle au Tonkin à Villeurbanne. C'est en 1917 que Marius Patet installe son usine dans le 8e arrondissement. Le site industriel fonctionnera jusqu'en 2011, soit quasiment un siècle d'activité. Patet emploie jusqu'à 400 personnes à une époque où un ouvrier pouvait faire toute sa carrière au cœur d'une même boîte. André Marcon est rentré dans l'entreprise, son brevet industriel en poche, acquis à l'école des métiers du boulevard des Tchécoslovaques, puis il a gravi les échelons.
Bon, j'ai travaillé à l'usinage pendant plusieurs années, en tant que rectifieur, tourneur. Après, j'étais chef d'équipe à l'usinage. J'étais assimilé cadre, plus ou moins contremaître. En premier, j'étais chef d'équipe d'un atelier de petit usinage des arbres, uniquement des arbres de moteur. Au bout de 35 ans, même plus 38 ans d'entreprise, j'en avais un peu ras les baskets. Il y a un collègue qui partait en retraite, je demandais à pouvoir le remplacer au bureau d'études. Le bureau d'études créait des pièces pour les moteurs, des nouvelles pièces, tout ça. Il fallait que je les codifie, le mettre un numéro, une nomenclature. Les gens, ils venaient de la Pidie, un peu de partout, hein, du moulin à vent, de moi. J'ai encore des collègues qui habitent encore Haute-Vienne, là. Hein. On était renommés pour la qualité de nos produits. On était peut-être un peu plus cher que sur le marché, mais on assurait une qualité des moteurs. Toutes les années, il y avait la remise des médailles qui était un moment important pour tous les gars de l'entreprise parce qu'il y avait les récipiendaires qui recevaient la médaille, mais tout le personnel était convié à boire un coup ou un petit casse-croûte. Quoi. Il y a eu une équipe de basket et puis l'équipe de foot. L'équipe de basket, oui, j'ai connu des collègues qui ont participé à l'équipe de basket. Une ambiance familiale. Quoi.
Patet produisait des moteurs pour l'industrie. Ces moteurs équipent alors les grues du chantier, les téléskis, des centrales nucléaires et même le funiculaire de Saint-Just. Mais comme toutes les histoires industrielles, celle de Patet débute un peu par hasard par une histoire de tricycle. Michel Locatelli, passionné d'histoire industrielle et membre du conseil de quartier Grand Trou, Moulin à Vent, Petite Guille.
Avant de se lancer dans la construction donc, de matériel électrique, Patet a commencé donc sa carrière dans la mécanique, en fait. Il était mécanicien, il avait une formation de mécanicien. Sur certains actes que l'on trouve, il est indiqué comme tourneur, vous voyez. Et ça, c'est un mystère. Comment il a basculé, en fait, de la mécanique donc à l'électricité. Et effectivement, à une époque de sa vie, il a construit donc des vélos. Et puis, il a construit donc ce fameux Colibri, qui était une petite locomotive, en fait, qui fonctionnait donc à la vapeur. Mais il en a fait très peu d'exemplaires. Et puis, il s'est tourné du côté de l'électricité. Et puis, il a bien fait, hein, certainement, puisqu'il a parfaitement réussi, puisque l'entreprise, sur le plan industriel et commercial, a longtemps été une véritable réussite. Hein.
Une entreprise qui a prospéré au fil des années. Hein.
Oui, tout à fait, puisque au moment où elle comptait le plus grand nombre de salariés, surtout donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y avait plus de 400 personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Et puis, c'était beaucoup des gens qui habitaient ici même le quartier et qui, souvent, avaient fait leur scolarité ici à Philibert-Delorme et puis qui, quelques années après, se retrouvaient donc ouvriers donc dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une entreprise qui était insérée dans le tissu du quartier, en fait.
C'était un petit peu le lot commun, je dirais, à toutes les entreprises. Berlier aussi faisait travailler du monde sur place.
Oui, certainement. Oui, tout à fait. Mais Berlier, c'était encore une autre dimension que Patet. Hein, tout à fait. Oui, mais c'était bien ça. Et puis, il y avait une certaine forme de paternalisme, quoi, en fait, dans cette entreprise. Et on a vu que la famille Patet était quand même attentive aux liens donc, avec leurs salariés, puisqu'ils développaient donc, des activités sportives, des activités culturelles. Il y avait cette bibliothèque. À une époque, donc, il y a eu une chorale. Mais ça n'empêche que les rapports sociaux, par moment, donc, étaient quand même difficiles et conflictuels. Hein. Il y avait une activité syndicale. À certains moments dans l'histoire de l'entreprise, les syndicats, notamment la CGT, venaient donc bloquer l'entrée de l'entreprise. Et un jour, André Patet s'est retrouvé comme ça bloqué et il n'a pas hésité donc à escalader le mur de son entreprise pour aller travailler donc dans son bureau. Hein. Et soi-disant que la CGT, quand elle voulait impulser donc un mouvement syndical sur la région lyonnaise, elle venait tester en fait les salariés sur Patet pour voir si ça prenait ou pas. Et après, si ça prenait, ils essayaient d'élargir.
C'est une boîte qui est restée familiale, hein, pratiquement,
oui,
jusqu'au
bout.
Oui.
Sauf quand elle a été reprise par le roi Sommaire. Mais pendant trois générations, elle est restée strictement familiale, hein, puisque ça a été Marius, donc le fondateur. Ensuite, ça a été Charles, le fils, et puis André, donc le petit-fils. Oui, elle est restée longtemps familiale. Mais bon, à la fin de son existence, elle a été reprise par le groupe Le Roi Sommaire, qui est un groupe pour moi très important, et qui lui-même a été racheté par un groupe américain qui s'appelle Emerson, et puis qui lui-même a cédé, en fait, Le Roi Sommaire à un groupe japonais qui s'appelle Nidec. Et actuellement, il existe encore une petite usine Le Roi Sommaire à Saint-Symphorien-d'Auzon, où il y a environ donc, 150 salariés, et il y a une quinzaine d'anciens pâtés dans cette entreprise qui fait des petits moteurs pour robots, des choses comme cela.
Justement, les moteurs historiques de pâtés, on pourrait les retrouver où? Est-ce qu'il y en a encore qui fonctionnent?
Alors, est-ce qu'il en existe? Ben oui, surtout que leur slogan, c'était les moteurs pour durer. Ils avaient un grand souci de la qualité. Ben, on peut les rechercher du côté du funiculaire de Saint-Just, puisqu'on sait qu'en 1958, en fait, il y a eu une inauguration des moteurs, donc ce funiculaire, et c'était Pâté qui avait fourni ces moteurs. Sur certains téléskis, ils ont même équipé d'ailleurs des téléskis dans différentes parties du monde, notamment aux États-Unis. Et puis, ils fournissaient beaucoup des moteurs pour des engins de levage, notamment des grues, pour Potin, pour Richier, des gens comme cela. Peut-être qu'il en existe encore, effectivement. Hein. Et quelqu'un d'un petit peu malicieux a dit que lorsque l'entreprise donc a disparu, qu'on a détruit tout ce qui existait, en fait, des locaux, puis qu'on a créé ce fameux ensemble immobilier qu'on appelle maintenant le Pub Pâté, il y a eu des grues qui se sont dressées. Et on se demandait si, parmi les grues qui étaient en train de démolir l'entreprise et qui construisaient donc l'immeuble, eh bien, ce n'étaient pas des engins qui étaient encore équipés par des moteurs Pâté. Bon, c'est une supposition, mais elle n'est peut-être pas aussi saugrenue que ça, en fait.
Ce que vous regrettez aussi, c'est que finalement la mémoire de cette industrie est totalement disparue de la ville.
Oui, moi je regrette beaucoup qu'on n'ait pas davantage honoré la mémoire de cette industrie, et puis surtout de Marius Pâté, hein, qui a quand même été un personnage un petit peu hors du commun, hein, qui s'est fait tout seul, hein, issu d'un milieu donc tout à fait modeste, et qui a réussi à créer donc une entreprise qui a duré donc plus d'un siècle. Hein. Et hélas, effectivement, hein, il ne reste plus grand-chose. Si, il reste une résidence universitaire à qui la région donc a donné le nom de Marius Pâté, donc Dieu merci. Il reste une impasse qui porte encore le nom de Marius Pâté. Et puis il y a dans les nouveaux immeubles qui ont été créés donc sur l'emprise de l'entreprise des décors de hall d'immeubles qui reprennent donc des références à l'histoire de Pâté et notamment au funiculaire de Saint-Just. Mais c'est quand même bien regrettable. Et, bon, on aurait bien pu donner le nom de Marius Pâté à de nouvelles rues qu'on a appelées Myriam Makeba. Bon, beaucoup de respect pour Myriam Makeba. On a appelé Arnaud Beltrame. Beaucoup de respect pour Arnaud Beltrame, mais bon, une rue Marius Pâté sur ce site-là aurait été tout à fait quand même bienvenue. Hein.
Michel Locatelli, membre du conseil de quartier Grand Trou, Moulin Avant, Petite Guille, les usines Pâté ont laissé leur place à un vaste programme immobilier rue Audibert-Lavirotte. Quant au Colibri, la fameuse locomotive à l'origine de l'entreprise, un exemplaire a été légué à la Fondation Marius Berliet, dont l'objet est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine automobile et des véhicules industriels de la région.
Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain.
Les JO Paris 2024 en football, les Bleus filent en quart de finale. Les filles ont battu la Nouvelle-Zélande 2-1 hier à Décines, un doublé de Katoto à la 22e et à la 49e minute. Elles assurent ainsi la première place du groupe. En quart, l'équipe de France féminine sera opposée au Brésil. Et puis l'Olympique Lyonnais, des Lyonnais qui suivront un nouveau stage à partir de lundi prochain à Divonne. Ils auront deux séances par jour. Il leur restera ensuite un match de préparation à Londres contre Arsenal. Ce sera le 11 août. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée.